Bonjour à tous, c'est Clotilde Sey qui vous souhaite la bienvenue à cette toute première émission que nous avons appelée Le National. Pourquoi ce nom ? Parce que Canal M rayonne sur tout le territoire canadien et que nous pensons que tout au long de la semaine, au sein de notre programmation, de nombreux sujets sont d'intérêt national, dans la mesure où ils s'adressent à tous les francophones au pays, d'Est en Ouest. Je vous invite donc à découvrir ces segments d'émissions réunis pour vous durant la prochaine heure. Renforcer sa musculature. Il n'est jamais trop tard. Nous vivons plus vieux au Canada, mais pas forcément plus en santé. C'est le constat que fait Mylène Aubertin-Lehedre au micro de Marianne Paquette à l'émission « C'est bon pour la santé ».
On vit de plus en plus longtemps, en fait, l'espérance de vivre en augmentant. C'est une excellente nouvelle et les chiffres sont là pour en témoigner. Le Canada arrive en 10e place au chapitre de l'espérance de vie globale. Une espérance de vie qu'on dit 79,4 ans chez les hommes et de 83,4 chez les femmes. Toutefois, l'espérance de vie en santé, c'est pas aussi concluant. On dit même que les chiffres tentent à stagner. Comment on peut ralentir ce processus de vieillissement, notamment par l'activité physique. Et j'en parle avec Mylène Aubertin-Lehedre. Elle est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, également spécialiste des aspects physiologiques du vieillissement et de l'exercice. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc, l'activité physique, on en parle de plus en plus en fait, aurait des effets plutôt probants sur le ralentissement de ce processus de vieillissement auquel on n'échappe pas. Comment ça affecte ce processus, l'activité physique?
Bien, en fait, le fait de s'activer, de se bouger, va mobiliser vos muscles, va mobiliser vos articulations et donc par ce fait-là, va permettre de conserver toutes les fonctions de ces organes physiologiques dont on a besoin pour rester autonome, par exemple physiquement, au sein de notre domicile. Le fait de bouger va aussi vous permettre de garder votre santé cardio-respiratoire, donc vos cœurs, vos poumons, aussi en santé. Et de plus en plus, l'activité physique démontre un effet au niveau cognitif, au niveau du cerveau, pour prévenir les maladies d'Alzheimer. Donc, dans son ensemble, elle aurait des bénéfices sur tous les organes physiologiques importants.
Et d'ailleurs, vous le dites, hein, vous n'hésitez pas à l'affirmer, bougez. Point final, peu importe ce que vous faites, bougez. Mais ce qui est intéressant, Mylène, c'est que dans votre lab, vous analysez encore plus précisément, à savoir, oui, bouger, mais de quelle façon on peut bouger pour que ces résultats soient encore plus probants. Il y a des activités qui seraient peut-être des activités physiques, oui, qui seraient plus adéquates pour ralentir ce processus.
Oui, en fait, ma doctrine, elle est bouger et bouger comme vous le voulez, parce qu'en fait, un des chiffres qui est quand même alarmant, même si on dit que l'activité physique est efficace, c'est que 65% des personnes âgées sont sédentaires.
Ouais.
Donc, première barrière, ils ne s'activent pas, donc si on peut juste les faire bouger comme ils le veulent, c'est déjà le premier message. Le deuxième message, oui, dans notre laboratoire, on s'occupe d'essayer de comprendre comment l'activité physique peut être adaptée et efficace chez la personne âgée. Parce qu'en fait, quand on regarde les recommandations dans les sociétés d'exercice et de physiologie américaines, canadiennes, européennes, elles sont pas spécifiques à nos personnes âgées. Et ça m'a surprise, en fait, de savoir que les gens de 20 à 55 ans avaient les mêmes recommandations en termes d'exercice en résistance, donc en musculation pour faire grossir les muscles, si on peut être grossier un peu, et au niveau cardiovasculaire ou de flexion ou que les jeunes. Et là, je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une spécificité. Un, ils ont plus de maladies, plus de comorbidités, de maladies chroniques, donc il y a forcément quelque chose qu'on doit faire. Donc on s'est penché là-dessus, et une de nos études a montré en fait que oui, pour garder des muscles en santé, donc une bonne fonction musculaire et une bonne mobilité, jusqu'à 65 ans à peu près, les gens doivent mettre de préférence des exercices de musculation, donc des exercices où on essaye de soulever des poids pour permettre d'augmenter la masse musculaire et la préserver. Par contre, à partir de 65 ans, notre étude a démontré que, indépendamment de l'activité physique, qu'elle soit cardiovasculaire, donc faire de la marche, du tapis, de l'elliptique, du vélo,
de la Zumba,
exactement, était aussi efficace que les exercices en musculation pour préserver cette fonction musculaire, cette mobilité-là. Donc ça a été une des belles découvertes et assez surprenante en fait, mais qui, à la fin, disait aux gens, bougez, vous allez permettre d'avoir une belle fonction.
Vous avez aussi, et ça, je trouvais ça très probant comme résultat, analysé deux groupes, des jeunes hommes en santé, actifs, des hommes plus âgés, 65 ans et plus, je crois, actifs aussi. Et vous vous êtes rendu compte, ils ont à peu près la même forme physique.
Oui, en fait, une des objectifs du laboratoire, c'est de vérifier comment la fonction musculaire se décline à travers les ans. De façon naturelle, on perd de la masse musculaire, on perd de la force, on perd de la puissance. Et tout ça, normalement, c'est utile pour pouvoir marcher, pour pouvoir se déplacer. Et on s'est demandé, est-ce que le fait d'être actif dans sa vie peut limiter cet effet-là? Et notre première surprise, c'est que quand on regardait la qualité musculaire, donc le ratio de la force sur notre masse corporelle, elle était identique entre des personnes âgées actives de 65 ans et plus et des jeunes hommes actifs de 25 ans d'âge moyen. Donc ça a été notre première surprise, c'est que oui, l'activité physique préservait, mais elle ne préservait pas juste en surface, au niveau cellulaire, au niveau mécanistique, les fibres musculaires, le système neuromusculaire, les jonctions, tout était identique entre nos jeunes et nos âgés.
Mais ma question, Mylène, c'est que ces hommes qui faisaient partie du groupe plus âgé, 65 ans et plus, est-ce que c'était des individus qui faisaient de l'activité physique depuis des années? Parce qu'on a souvent tendance à dire, bon, moi, je ne suis pas active. En fait, c'est renverser la vapeur, ça devient vraiment très difficile. Bon, à quel moment il faut se prendre en main?
Alors, dans ce groupe-là, on était vraiment dans un modèle de successful aging, qu'on appelle, c'est-à-dire de vieillissement réussi. Ces gens-là, quand ils ont été inclus, ils en faisaient depuis plus de 10 ans d'activité physique de façon régulière. Par contre, ce ne sont pas des super athlètes. Ce n'est pas les gens qui font des marathons. Ce n'est pas les gens qui vont aller faire des Ironman, comme on voit en ce moment sur le site web, mais qui font de l'activité physique, du tennis, de la marche avec les amis, du golf, qui restent actifs. Mais on a aussi démontré dans d'autres études où, quand on activait les gens alors qu'ils étaient sédentaires depuis longtemps, puis avec une moyenne d'âge de 72 ans, qu'on était capable de faire regagner de la qualité musculaire jusqu'à plus de 120% chez certaines personnes. Donc, c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard.
Oui, et bon, si on regarde ce groupe-là qui avait 65 ans et plus, ça fait plus de 10 ans qu'ils font de l'activité, bien, s'ils ont commencé à 45-50 ans, par exemple, bien, les résultats sont quand même là et très, très probants. C'est quand même plutôt encourageant, tout ça. Vous parlez de qualité musculaire, Mylène, et ça, j'imagine que c'est assez important pour éviter les blessures, favoriser l'équilibre, aussi éviter les chutes?
Bien, la qualité musculaire, elle est essentielle pour essentiellement l'équilibre, les chutes, la mobilité, se déplacer. Surtout au Québec, il y a une particularité quand on se déplace dans les rues. Le fait de vouloir traverser une rue, il faut être rapide. Ouais. Hein, les passages piétonniers, on a souvent, nous, juste quand on est jeune, le temps de traverser, qu'on est déjà avec la main qui clignote puis qui nous annonce que c'est le feu rouge. Bien, la qualité musculaire, c'est la capacité à pouvoir se mobiliser avec tout notre équipement, c'est-à-dire nos muscles, notre force, nos os, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se mettre en mouvement. Et donc, plus on la maintient, plus on va être capable de traverser une rue en une seule fois et pas en deux fois. Parce qu'une des problématiques chez la personne âgée qui ne veut pas se déplacer en dehors de la neige, du verglas, c'est je n'ai plus l'aptitude à traverser. Je n'ai plus la capacité à me rendre d'un bloc à un autre sans être fatigué. Donc, la maintenir va permettre de pouvoir aller au supermarché, d'aller dans les dépanneurs, mais aussi traverser les rues sans se sentir en danger et pris entre deux circulations parce qu'on est rendu là, parce que l'âge...
Et ça, c'est la musculation qui peut favoriser ça. Est-ce que le cardio aussi a à voir?
Bien sûr, la santé cardio-respiratoire est essentielle. Pour avancer, il faut que tous les organes soient en action et le fait de maintenir et de se bouger va mobiliser de toute façon les trois systèmes, les poumons, le cœur et le muscle. Donc, tout va se préserver. C'est pour ça qu'on dit « bouger, c'est bon pour la santé, ça va vous permettre de vous garder en santé dans tous les sens à ce moment-là. »
Je reviens à si on n'a jamais été actif, on commence par quoi?
On commence par quelque chose qui nous plaît. Moi, c'est vraiment mon premier objectif, c'est choisir quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez marcher avec vos amis, continuez à marcher. La seule chose que je vous dirais, c'est essayez d'avoir un 5-10 minutes où vous n'êtes plus capable de parler avec votre ami. Vous êtes dans une intensité qui va vous permettre d'améliorer votre santé. Ce genre d'exemple-là. Bien sûr, on peut essayer d'aller voir dans les groupes communautaires. On peut aussi aller voir dans les sites Internet de notre laboratoire. On donne des sites communautaires, on montre nos études. Il y a plein de laboratoires, il y a plein de ressources qui existent. C'est sûr qu'elles ne sont pas connues par les personnes âgées, mais elles sont disponibles. Les YMCA, par exemple, font des cours à une époque pour les 50+. Donc, ça existe, des cours adaptés, ça existe pour être ensemble et pas se faire regarder, par exemple, par la petite jeune en forme, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être comparé à ça. Il y a aussi des centres pour aînés. Il y a de plus en plus de kinésiologues spécialistes qui viennent dans vos domiciles. Donc, la, l'offre est là, ouais. Elle existe. C'est sûr qu'elle est peu connue encore, mais elle est de plus en plus disponible.
Vous, la nouvelle que maintenant les omnipraticiens pouvaient prescrire de l'activité physique, vous avez salué cette initiative, j'imagine?
Définitivement. Pour une fois, on mettait en avant la prévention au lieu de la curation. Donc, ça mettait aussi en avant que l'activité physique pouvait être un facteur de santé, de diminution des coûts de santé, surtout quand on sait que 65 % des coûts de santé au Canada sont chez les personnes âgées. Essayer de la prévenir par de l'activité physique, sachant qu'ils sont en plus sédentaires, est définitivement salutaire.
Oui. Et Mylène, en terminant, vous travaillez justement, vous aussi, sur la prescription d'activité physique, mais pour une clientèle très, très ciblée, c'est-à-dire des personnes âgées qui ont eu un passage à l'urgence. En quoi ça consiste?
Oui, on a fait une étude dernièrement, en fait, chez les personnes qui vont à l'hospitalisation. Hein, ils sont de plus en plus par l'âge, aller côtoyer ces urgences-là. Et en fait, le groupe du Canada, le groupe de recherche canadien des urgences, m'a contacté parce qu'en fait, ils avaient démontré que juste le fait d'aller aux urgences faisait décliner les gens au niveau de leur capacité physique, au niveau de leur mobilité, de leur autonomie.
Ouais.
Autour de 25% après 3 et 6 mois. Donc, ils m'ont demandé de faire un programme d'activité physique. On s'en est servi avec une géronte technologie. Et avec la compagnie et mon savoir-faire en kinésiologie et mon équipe, on a créé des programmes d'activité physique adaptée qui se mettent sur la télévision avec une Kinect, qui permettent d'avoir des retours directs pour la personne âgée, donc de se sentir en sécurité, et aux professionnels de faire les suivis à distance, de ne pas être obligé d'être à la maison de la personne au moment de la séance. Et donc, on a démontré à travers cette séance qu'on était capable de récupérer la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire, par exemple, la vitesse de marche des gens. On a été capable de leur améliorer cette capacité-là.
Eh oui, donc de contrer le déclin, d'une part, mais également de l'encadrer aussi, là, et de pouvoir le visualiser, travailler finalement à ce que la personne garde sa santé le plus longtemps possible.
Définitivement, cette notion d'encadrement, même à distance, est pour moi la notion la plus importante, parce qu'on ne pourra pas mettre un kinésiologue à toutes les maisons, voilà. Avec 25% des populations. Et le fait que les personnes âgées se sont senties en sécurité était aussi quelque chose de très important pour que ça perdure dans le temps.
Mylène Aubertin-Lehoeudre, je le rappelle, vous êtes professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, spécialiste des aspects physiologiques du vieillissement et de l'exercice. Merci de votre passage.
Extrait de C'est bon pour la santé, diffusé le mercredi à midi et en reprise à 17h, c'était une entrevue que Mme Mylène Aubertin-Lehoeudre accordait à Marianne Paquette. Son nom est un incontournable de la politique fédérale. Jeudi dernier, dans le cadre de l'émission « Des livres plein les oreilles », je m'entretenais avec Chantal Hébert.
Bon, j'ai deux livres sous les yeux, Chantal Hébert. Le livre que vous avez coécrit. Alors, je reçois donc Chantal Hébert, journaliste, chroniqueuse. Écoutez, je vais sembler un petit peu confuse, peut-être, parce que j'aime bien avouer les choses, mais quand je suis impressionnée par quelqu'un, je deviens bête.
Bon, ça va bien.
Ça va bien.
La plupart des gens que je couvre ne sont pas très impressionnés, alors il faut en revenir vite.
C'est vrai?
Oui.
Mais est-ce qu'ils sont impressionnants?
Certains, oui.
Certains, oui.
Comme partout, c'est comme les livres.
Oui, c'est ça.
Il y a des grands auteurs, il y a des auteurs qui sont toujours assez bons, puis il y en a qui sont vraiment médiocres, puis qui écrivent des navets, voilà. Ou des fois, des très bons auteurs écrivent des navets et vice-versa.
Oui, c'est ça.
Donc, les politiciens ne sont pas très différents. Il y a des gens qui sont, oui, franchement, qu'on est content d'avoir rencontrés et qu'on se dit « wow ». Il y en a d'autres, bon,
ben, c'est ça.
On ne les aurait pas rencontrés, ça ferait pareil.
J'imagine.
Les journalistes sont pareils aussi, là. Toutes les professions sont comme ça.
Chantal Hébert, j'avais commencé par Le Petit Hébert, parce qu'en plus, j'ai tellement aimé ce titre et je me disais, écoute, c'est quand même extraordinaire d'avoir un bouquin, quand on est de son vivant, dans une vitrine, c'est moi, j'imaginais Le Petit Seille. Oh, waouh! Je me disais, il me semble que ça doit être quelque chose. La politique canadienne expliquée à mon voisin aussi, c'est un sous-titre assez formidable. Puis je me suis très rapidement aperçu qu'évidemment, il était un peu, pardonnez-moi l'expression, mais has-been, dans le sens où c'est complètement ça, mais parce que ce sont des chroniques. Hein.
Moi, j'ai été... D'abord, c'était pas mon idée, mais c'était bien l'idée de l'actualité pour laquelle j'écris des chroniques depuis un certain nombre d'années et qui avait décidé de mettre des chroniques ensemble pour la veille des élections fédérales.
D'accord.
Et moi, de dire, ben voyons, une chronique, normalement, si vous me demandez sur quoi j'ai écrit dans le Toronto Star la semaine dernière, je pas certaine que je vais pouvoir vous nommer les trois sujets. Alors, j'ai rien fait.
Vous voulez dire que c'est très éphémère.
Quand
c'est
on
très,
écrit trois ou quatre chroniques par semaine,
c'est très fugace,
alors j'ai été quand même agréablement surprise de voir que ça avait quand même survécu à l'épreuve du temps, dans le sens où il n'y a pas grand-chose là-dedans, donc je suis obligée de m'excuser en disant que je me suis gourée totalement. Parce
mais
que c'est
ça
le danger.
Qui est fantastique.
C'est ça qui est un peu inquiétant. Oui. Tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir de ça? Ouais. Et des fois, on regarde et on dit, ah ouais, j'ai écrit ça, moi.
Ouais.
Gardons ça.
Oui, et c'est justement, moi, ce qui m'épate complètement, c'est qu'entre autres, vous écrivez en 2013 sur l'arrivée, sur la montée de Justin Trudeau. Et déjà là, vous dites, Stephen Harper est déjà numéro 2 à ce moment-là. Alors que lorsque on a... Souvenez-vous, c'est pas si lointain que ça, mais tout le monde a rigolé au début. Enfin, c'est vrai, lorsque le jeune Trudeau est arrivé avec ses belles dents blanches et ses beaux yeux bleus et qu'on avait l'impression... Non, mais j'entendais...
C'est parce qu'il faut jamais oublier la différence. D'abord deux choses. La différence entre ce que les gens dont je fais partie disent... Oui. Et ce que les gens qui vont voter pensent.
OK.
Et
hélas,
quand il y a des élections, les gens qui vont voter, c'est eux qui vont décider le résultat, c'est pas les gens comme moi. Et ils sont immensément plus ouverts à prendre le temps de se faire une tête que la majorité d'entre nous qui écrivons tous les jours et qui, quelque part, pensons qu'on peut écrire la fin de l'histoire avant même qu'elle se passe.
Mais enfin, alors, vous pensez pas que vous participez?
Mais ça valait également pour Stephen Harper et Jean Chrétien. Moi, j'ai couvert Brian Mulroney, mais de très loin, parce que j'étais vraiment au début de ma couverture politique. J'ai couvert, donc, Stephen Harper, Jean Chrétien. Et on a dit de tous ces gens-là qu'ils n'avaient aucune chance de jamais devenir premier ministre, qu'ils n'avaient pas d'envergure, qu'ils étaient des accidents la fois qu'ils ont finalement été élus. Donc, quelque part, si on n'apprend pas la leçon, quand on voit arriver Justin Trudeau, surtout Justin Trudeau, il arrive en politique, au moment où il y a eu la vague orange avec Jack Layton, que personne n'a vu venir et que personne n'aurait pu imaginer 3 ou 4 ans avant, y compris M. Layton. Alors, d'avoir vu tout ça et ensuite de dire « Ah ben non, Justin Trudeau ira nulle part », c'est vraiment passé à côté du processus qui fait que les gens regardent. Il aurait pu être nul, se présenter au débat et avoir l'air d'un enfant de cœur pendant que les autres avaient l'air de gens compétents qui devraient gérer le Canada. Ouais. Mais moi, j'avais vu, parce que les Olympiques viennent de passer, quand j'ai écrit « Confession post-référendaire », j'ai travaillé sur la traduction pendant un certain temps. En même temps, il y a eu les dernières élections au Québec. Je me suis servi de tout ça comme bonne excuse pour ne pas regarder la période des questions à la Chambre des communes. Et une journée en mai, je me suis rendu compte que j'étais arrivé au bout de mes excuses et que je devais donc allumer la télé et regarder. Mais j'avais perdu un peu le fil de l'horaire parlementaire. Et il y avait eu un changement d'horaire cette journée-là. À la place d'arriver devant la période des questions, je me retrouve devant le Parlement, la Chambre des communes, qui ouvre son plancher aux jeunes olympiques et olympiens et paralympiens, qui sont donc tous habillés en rouge. Et il y a comme une mer de rouge et de jeunes personnes qui sont dans le milieu de la Chambre des communes. Et il y a les députés de chaque côté qui applaudissent ces jeunes-là, qui veulent faire prendre leurs photos avec eux. M. Mulcair, d'un côté, James Moore, qui est ministre du patrimoine. Et au-devant de l'écran, parce que les libéraux sont, à ce moment-là, troisième partie, donc près de la porte, il y a une petite tache en complet cravate dans une mer de rouge. Et ça, c'est Justin Trudeau que les Olympiens et Paralympiens veulent rencontrer pour faire prendre leur photo avec lui. Et je me souviens d'avoir regardé ça et de m'être dit, il y a ici un phénomène que nous, on n'a pas vu souvent en politique. En tout cas, moi, je n'étais pas là en 68 pour la Trudeau-manie. Et dont on ne sera pas capable d'évaluer l'impact jusqu'au jour du vote en campagne électorale. Mais ce genre d'attrait que quelqu'un exerce, un chef politique, sur un électorat, parce que ce n'est pas des deux de pique, là, les jeunes olympiens. En plus d'être des bons athlètes, ça a tendance à être des gens qui étudient, puis qui sont allés à l'école, puis qui étaient des premiers de classe. Attention avant de dire cet homme-là ne deviendra pas premier ministre. Et d'ailleurs, après, sur Twitter, c'était très drôle parce qu'il y avait sur le fil Twitter du chef du NPD, il y avait ses photos.
Mais c'est vrai
toutes
que c'est ce qui courait quand même.
Toutes les photos des jeunes étaient des photos des jeunes avec Justin Trudeau.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui courait quand même. Je veux dire, c'est
tout. Mais on est une société un peu vieillissante et puis on a le mépris facile quand c'est des gens plus jeunes que nous.
Oui, exactement.
Et le mépris n'est pas une très bonne base pour l'analyse en politique.
Oui, mais pas seulement d'ailleurs pour les gens qui sont plus jeunes que nous. Hein.
Non,
c'est un exercice.
Un petit problème d'humilité souvent.
Lorsque Jean Lapierre est décédé, je me rendais pas compte à quel point les chroniqueurs, les journalistes politiques, comme l'a été Jean Lapierre, comme vous l'êtes encore maintenant, je me rendais pas compte à quel point ils étaient écoutés par les politiciens. Il a fallu que Jean Lapierre décède pour que je me rende compte que, par exemple, je me souviens plus si c'est Monsieur Couillard, en tout cas, c'est Monsieur Barrette qui tous les matins écoutait religieusement Jean Lapierre pour savoir. Je me suis dit, mais ça n'influe pas dans ce que vous avez à dire, le fait de savoir que vous êtes, entre guillemets, si important pour ces gens-là qui écoutent ce que vont dire les gens Lapierre, ce que vont dire les gens comme Jean Talébert.
C'est agréable pour l'ego. Si on ne fait pas attention, on ne pourrait pas réussir à passer à travers les cadres de porte.
C'est agréable pour
l'ego. La tête un peu, okay. La plupart des journalistes politiques vont vous dire qu'un des avantages, mais un des inconvénients aussi de ce qu'on fait, c'est qu'on est... un des rares groupes de journalistes qui est obligé de revoir le lendemain matin les gens sur lesquels on a écrit la veille, pour le meilleur et pour le pire, mais on est obligé de cohabiter avec eux. Quand je rentre au Parlement, les gens qui sont autour de moi, j'ai peut-être écrit des choses gentilles, probablement pas, et on est tous obligés de vivre ensemble. En campagne électorale, on est tous ensemble dans la même bulle. À la fin, moi, j'écris pas pour eux.
Oui.
J'écris pour les gens qui lisent le Toronto Star, les gens qui lisent l'actualité, puis j'écris surtout pour les gens qui votent. Alors, très franchement, quand un politicien vient me voir en me disant « j'apprécie beaucoup ce que vous faites », d'abord, je me dis que ça ne durera pas. mais ensuite, ça me fait pas mal moins plaisir que quand un chauffeur d'autobus me fait des allô et des signes de pouce pendant que je traverse la rue Sherbrooke.
Ouais.
Parce que je veux pas, moi, écrire pour la colline parlementaire. Non, ça m'intéresse pas tellement. Puis j'ai pas besoin non plus, tous les matins, de me faire valoriser en me disant que des gens importants m'écoutent. Surtout que le jour où je ne dirai plus rien, ils vont trouver quelqu'un d'autre à écouter.
Mm-hmm.
Et là-dessus, je pense que Jean est pas là pour parler pour lui, mais il pensait à peu près comme moi. Oui. Lui, il avait été des deux côtés de la clôture.
Ben oui.
Alors, son sens de la réalité était encore meilleur que le mien.
Mais Chantal Hébert, comment peut-on éviter d'être cynique avec les hommes politiques, avec les hommes, avec les femmes, je veux dire avec les personnalités politiques?
Moi, je suis moins que il y a 20 ou 30 ans. Je suis arrivée à penser que le cynisme, c'est un peu l'armure qu'on porte quand on est un peu ignorant.
Oui.
Mais c'est pas difficile de pas être cynique parce que c'est quand même... on voit des choses. Moi, la campagne de Jack Layton, par exemple, la façon dont cette connexion s'est établie entre quelqu'un qui parlait de choses... On parle souvent en farce un peu des vraies affaires au Québec. Monsieur Layton parlait de choses qu'on pourrait juger excessivement simplistes. Il parlait de pain et de beurre. Et pourtant... quelque part, il y a eu une connexion entre cet homme-là et les gens qui ont voté pour lui qui se sont dit, il est sérieux, c'est ça qu'il veut faire. Mais dans cette campagne-là, comme dans beaucoup de campagnes que j'ai couvertes, les gens qui parlaient, et c'est le cas aussi de M. Trudeau, les gens qui faisaient les campagnes les plus positives ont généralement été récompensés par les électeurs.
Oui.
Ce qui veut dire, bon, d'abord, que l'espoir se vend mieux que le contraire, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle,
mais aussi, c'est une bonne nouvelle de savoir que des gens peuvent aujourd'hui encore aller en politique et pas y aller seulement pour parler en mal de leur prochain, qui n'est pas dans leur parti, et être récompensés par des votes. Alors, quelque part, ceux d'entre nous qui aiment les contes de fées peuvent quand même trouver que fois, il y a des happy endings.
Mais il y a des fins, par contre, difficiles. Il y a des gens en politique, non pas qui ratent leur coup, mais qui auraient mérité certainement beaucoup plus. Je pense à Mme Robillard, à un moment donné, dont vous parlez, je ne sais plus dans lequel.
Les gens qui perdent ou qui ne réussissent pas contribuent quand même. J'ai couvert, moi, le référendum de 95.
Oui.
Et avant de commencer, j'avais rencontré des stagiaires parlementaires. Je leur avais dit, à la fin, rendez-vous compte quelque part qu'à la fin de cet exercice-là, il va y avoir un gagnant et un perdant. Il y a quelqu'un dont le cœur va être brisé. Et je ne peux pas vous dire lequel, mais les gens que je couvre, il y en a un des deux qui va sortir de là amoché. Bon, c'est lequel maintenant? Mais devant ce genre d'engagement-là, ce serait pas bien d'être cynique.
Mais pourtant, dans la population, vous savez, je sais pas, mais... Ben oui, mais c'est ça. Écoutez, ouais, quand on voit les jeunes libéraux en ce moment qui disent « Oh non, regardez, un quota de 40 à 60 % de femmes, on n'en veut pas
ouais, »
ou
y a des
choses comme ça.
Moi, je suis payée pour argumenter les deux côtés de la question. Alors, un quota, il y a des jeunes femmes, libérales ou pas, dans d'autres parties, qui vous diraient qu'elles n'en ont absolument pas besoin et que dans 10 ans, ça va prendre un quota pour s'assurer qu'il y a 50 % d'hommes.
OK, d'accord.
Alors, ça se débat des deux côtés.
Ah oui, c'est un bon argument.
C'est un débat intéressant. À la fin, quelqu'un va trancher. Mais s'il n'y avait pas plusieurs points de vue, on serait dans le domaine de la pensée unique. Puis là, on s'ennuierait totalement.
C'est
meilleur de la politique, c'est le choc des idées. C'est pas la personne qui arrive et dont on dit, ah voilà, il y a toutes les réponses, puis celui-là en a aucune. J'ai pas constaté que c'était vrai que le monopole du génie ou de la bêtise était dans un seul parti.
Mais voyez-vous, je pense que c'est exactement résumé dans vos deux dernières phrases. Pourquoi les gens vous aiment? Pourquoi les gens qui... Il y a comme ça des gens qui nous font aimer les sciences économiques ou les sciences humaines. Je me rappelle, dans mon autre vie, il y avait un type fantastique qui s'appelait François de Cluzet qui nous faisait aimer la science. Ici, on a un bénévole qui nous fait aimer les maths. Et vous nous faites aimer la politique. Et je comprends pourquoi. Parce que vous les respectez beaucoup en même temps, ces gens-là, même peut-être les moins respectables parmi eux, parce qu'il y en a aussi.
Ah oui, c'est comme le reste.
C'est comme le reste. Et eux vous respectent beaucoup.
Mais il y a une chose que j'ai apprise quand même en couvrant la politique. C'est pas utile de tirer sur les ambulances, même si la définition de ma profession, c'est que nous sommes les gens qui descendons la colline pour exécuter... ceux qui sont pas morts au champ de bataille.
C'est ça, exactement.
et j'accepte ça. Toutes ces idées-là, quand on se réveille le matin pour rendre quelqu'un moins confortable que dans l'état dans lequel il a bu son premier café, ça fait aussi partie de mon mantra.
Chantal Hébert, c'est un régal de vous recevoir. Je rappelle Confession post-référendaire, co-écrit par Chantal Hébert et Jean Lapierre, et Le Petit Hébert, la politique canadienne expliquée à mon voisin. Merci beaucoup, Chantal
D'accord,
Hébert.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir. Bye. Des livres pleins les oreilles est une émission que j'anime pour vous le jeudi à midi. Pendant une heure, découvrez les livres audio adaptés disponibles au Québec via le SQLA et dans les bibliothèques canadiennes grâce au CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Le National, seconde partie. Les Jeux paralympiques se sont ouverts mercredi dernier, le 7 septembre. À la veille de cette grande célébration au stade Maracanã, à Rio, Chantal Petitclerc, sénatrice, chef de mission d'Équipe Canada et athlète couverte d'or en athlétisme, a répondu aux questions d'Alexandre Coupal, animateur de l'émission Rio 2016, les Jeux continuent.
Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Alors, commençons avec l'essentiel. Est-ce qu'il fait beau à Rio?
Il fait très beau à Rio depuis plus d'une semaine.
C'est une constante, c'est une bonne chose.
Oui, absolument.
Toi qui as évidemment beaucoup d'expérience en tant qu'athlète aux Paralympiques, 5 Olympiades au total, moi, je suis curieux de savoir, au niveau de la fébrilité, c'est quoi la différence ou les nuances entre celle qui habite l'athlète qui va commencer et celle qui habite la chef de mission là, qui en sera à ses premiers Paralympiques?
Ah, ben c'est sûr que l'adrénaline, c'est complètement différent là, quand on est un chef de mission versus un athlète. Je dirais que quand j'étais athlète, je dormais pas beaucoup les mois avant les Jeux. Chef de mission, on arrive ici et puis là, on dirait que ça se construit parce que notre équipe arrive, on partage des temps avec eux, des moments avec eux, on va les voir à l'entraînement. Puis là, quand on approche de la cérémonie d'ouverture, ben là, on a des petits papillons qui arrivent parce que on sent leur fébrilité. Puis comme j'ai déjà été là, ben je sais c'est quoi un petit peu là, la pression, l'adrénaline et puis le désir aussi là, de commencer. Donc, oui, c'est complètement différent, mais dans les deux cas, c'est une super belle expérience.
Es-tu très sollicitée? Est-ce qu'ils sont nombreux, nombreuses à vouloir tes conseils, tes impressions?
Oui, beaucoup, beaucoup plus que je pensais, en fait, hein, parce que moi, je suis arrivée ici avec une attitude très respectueuse de l'athlète et de son équipe. Je pense que les athlètes d'aujourd'hui, si on compare à quand j'ai commencé, je suis débarquée à Barcelone, j'étais toute seule avec mon entraîneur. Là, les athlètes aujourd'hui, ils sont ici, ils ont leurs entraîneurs, leurs psychologues sportifs, ils ont leurs équipes médicales, tout ça. Donc, nous, comme chef de mission, c'est d'être très, très disponible, en même temps, très respectueux de cette équipe-là, puis de pas entrer dans une bulle sans qu'on y soit invité, je dirais. Et moi, ça, c'est super important parce que je sais comment c'est fragile la préparation d'un athlète avant les Jeux. Donc, tu veux être disponible, mais tu veux vraiment, vraiment pas t'imposer. Mais je dirais que j'ai été vraiment touchée parce que les athlètes viennent me voir, me posent des questions, me remercient des petits discours que j'ai faits. Donc, je sens que j'ai un impact. Et je sens que toute mon expertise aussi que j'amène avec moi comme chef, ben je peux la repasser aux athlètes.
Il serait fou de s'en priver, si tu veux mon opinion. Je me posais la question, j'ai cherché vite, mais est-ce qu'il y a des objectifs pour la délégation canadienne? Tu sais, avant les Jeux, il y en a été grandement cas. Est-ce qu'on a des objectifs en termes de médailles chiffrées pour les Paralympiques?
Oui, absolument. Nous, comme équipe, on est arrivé ici avec 162 athlètes dans 19 sports et on aimerait repartir avec un top 16 dans le tableau des médailles. Ça, c'est un objectif qui est réaliste, mais qui est quand même assez ambitieux. À Londres, on avait fait top 20. Et donc, pour réaliser ça, là, il va vraiment falloir que tout le monde soit capable de livrer sa meilleure performance. Faut comprendre qu'on est il y a quand même plusieurs. On a déjà été des leaders un peu plus. On a déjà fait des top 3, tout ça là dans le cumulatif au tableau des pays. Mais on est vraiment dans une équipe où là, il y a un contexte international où de plus en plus de sports qui auparavant n'investissaient pas tant que ça dans leurs sports et dans leurs athlètes paralympiques. Se sont mis à investir énormément là, depuis 10-15 ans. Et là, tous ces sports-là sont hyper compétitifs. Et ça, jumelé avec une équipe qui a des vétérans, c'est vrai, mais qui a beaucoup de relèves, beaucoup de jeunes. Donc, si on est capable là, de livrer notre marchandise, dans le fond, de terminer dans le top 16, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et puis que c'est nous, notre objectif, dans le fond, là, c'est de remonter comme leader dans le monde là, dans deux Jeux paralympiques. Donc, si on réussit à faire ça, là, ça veut dire qu'on est vraiment dans la bonne direction puis on va être très, très heureux de ça.
Sens-tu que la bonne prestation de l'équipe aux Jeux olympiques, ça inspire les athlètes qui sont là pour les paras?
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, tout le monde a regardé un petit peu les Jeux olympiques et puis l'atmosphère était super bonne, la performance était bonne. Et c'est sûr que nos athlètes arrivent ici sont inspirés, d'autant plus que dans plusieurs sports, les athlètes olympiques, ben c'est leur partenaire d'entraînement, donc ils les connaissent, ils ont regardé les compétitions et puis là ils arrivent ici puis ils veulent se dépasser. Donc ça c'est sûr que c'est un facteur positif. Un autre facteur positif, je dirais, c'est d'avoir été les hôtes des Jeux Panam et Parapanam l'année passée. Ça a donné vraiment une expérience, surtout à nos jeunes athlètes. Une expérience de compétition internationale avec de la pression, avec des médias, avec les salles, les lieux de compétition pleins. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir un peu l'effet. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans l'importance d'accueillir des événements sportifs et d'être un pays hôte le plus qu'on peut. Donc, je pense qu'on va avoir des résultats aussi.
Les performances desquelles on a été témoins il y a quelques semaines maintenant vont en ce sens-là aussi. Petit mot sur Londres, la dernière Olympiade, qui, pour plusieurs, ça a été les plus beaux Jeux paralympiques, je ne veux pas dire de l'histoire, mais ça a certainement été des Jeux marquants. Comment on aborde Rio dans ce contexte-là?
C'est clair que les Jeux paralympiques de Londres ont été des Jeux exceptionnels là, pour plein de raisons. C'est d'une part, c'est là qu'est né le sport paralympique. Ouais. Donc, ils ont toute cette culture paralympique, cet accueil des athlètes paralympiques qui vraiment existe nulle part ailleurs sur la planète. En plus, bon, ils avaient les moyens de faire des jeux à la hauteur là, de quelque chose qu'on n'avait jamais vu aux Paralympiques. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une mauvaise foi de vouloir comparer. Hein. Je pense qu'un pays qui nous reçoit, il nous reçoit avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a. C'est ce que les Jeux de Londres ont fait. C'est ce que les Jeux de Rio vont faire. Et c'est bien parfait comme ça. Les athlètes qui sont ici le comprennent très bien. Et puis tout le monde est super positif, super de bonne humeur et personne compare avec Londres parce que c'est deux jeux qui sont différents avec deux pays qui sont différents qui peuvent offrir quelque chose de différent.
Je voulais poser la question aussi dans le sens où est-ce qu'il y a un espoir que Londres ait redonné un certain souffle à l'organisation des Paralympiques?
Je dirais que les Jeux de Londres ça a probablement eu un impact super positif pour plusieurs pays qui ont vu un petit peu l'ambition qu'on pouvait avoir dans des sports, dans des Jeux paralympiques. En fait, ça a vraiment donné à tout le monde l'idée de « OK, c'est ça que ça peut être les Jeux paralympiques et pourquoi est-ce que ça pourrait pas être ça chez nous comme pays, comme sport? » Donc, c'est sûr que ça a eu un effet super positif parce que il y avait la publicité, il y avait les produits dérivés, il y avait des trucs qu'on n'a jamais vus. Là. Et c'est bien difficile de quantifier l'impact de ces jeux-là, mais c'est clair que c'est un impact très, très positif. Ça devient un objectif aussi de se dire, si les athlètes paralympiques peuvent avoir ce genre de reconnaissance-là à Londres, ben pourquoi pas chez nous, puis pourquoi pas partout dans le monde.
En terminant, Chantal, une petite question sur la grosse annonce de la journée. D'ailleurs, une de tes premières de grandes tâches, j'imagine, celle que d'annoncer le porte-drapeau, le basketteur en fauteuil roulant, David Eng, qui a un pedigree qui parle de lui-même.
Non, absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle façon de commencer la journée avec l'annonce de notre porte-drapeau, David Eng, qui, en plus d'être un ami, et surtout est un athlète accompli, médaillé d'or, médaillé d'argent au basketball, une équipe qui vraiment, pendant des années, a été un peu l'équipe phare, l'équipe vedette aussi de notre équipe paralympique. Donc, c'était vraiment un beau moment pour lui. Il était très, très heureux de ça. Et puis moi, comme chef de mission, ben quand on a commencé les sélections, je me disais, j'ai le goût de quelqu'un qui va être devant nous demain quand on sera aux cérémonies d'ouverture et dont tous les athlètes pourront être fiers et contents pour lui. Et c'est exactement ce qui se produit. Déjà, j'ai plein d'athlètes, d'entraîneurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, oh mon Dieu, je suis tellement contente pour lui. Non seulement c'est un bon athlète, mais c'est tellement une bonne personne et un bon leader aussi. Donc, on est vraiment, vraiment contents de ça.
Chantal Petitclerc, chef de mission du Canada pour ces Jeux paralympiques de Rio. Un grand merci pour ces quelques minutes. Et bien sûr, on te souhaite une dizaine à la hauteur de tes espérances.
Merci beaucoup.
Dans le cadre de l'émission Le National, présentée sur Canal M, c'était un entretien entre Chantal Petitclerc et Alexandre Coupal, animateur de Rio 2016. Les Jeux continuent, présentés tous les jours jusqu'au 18 septembre sur nos ondes, à 15h en direct et en reprise à 18h. C'est l'événement majeur et incontournable en cette rentrée 2016, la consultation visant à répondre à cette question « Qu'est-ce que le Canada accessible ?» et la loi sur l'accessibilité qui doit en découler en 2018. Richard Lavigne, directeur général de la COFAN, la Confédération des organismes pour personnes handicapées du Québec et membre du Conseil canadien avec déficience, était l'un des invités de Benoît Racette à l'émission « Accès libre ».
Richard Lavigne, directeur de la COFAN, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, évidemment, vous êtes aussi membre du Conseil des Canadiens avec déficience. Vous représentez la COFAN, qui représente bon an mal an une cinquantaine d'organismes, voire des regroupements. Mais j'ai envie, parce qu'il y a un moment dans l'histoire là, qu'on est en train de traverser, ce gouvernement canadien, assez récent, a créé pour la toute première fois un ministère qui s'occupe prioritairement des personnes handicapées. Et plus encore, sa nouvelle ministre, Mme Carla Cultural, est championne paralympique, championne des droits et libertés, et comme vous, est une personne aveugle. Est-ce que vous pensez que ça veut dire quelque chose d'important pour les personnes aveugles partout au Canada?
Moi, je pense que ça va un peu dans la vague là que notre premier ministre du Canada essaie là, d'insuffler. Je crois que lui, il veut faire les choses autrement. Et ça se veut une preuve concrète, au moins au plan théorique, là, que le handicap, la situation des personnes qui ont limitation au Canada préoccupe le gouvernement. Et ça s'inscrit dans une série d'actions nationales et internationales. Hein. Faut pas oublier que le Canada a signé et ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
Oui, puis ça, c'est important de le dire. Oui. C'est une convention qui ratifie cela.
C'est Harper qui l'a signé.
Oui.
Sauf que Harper n'a pas signé le protocole facultatif qui, lui, donne un peu plus de responsabilité.
Bien, c'est important que vous le souligniez, parce que peut-être qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'on fasse ce premier geste-là avant de promulguer une loi. Est-ce que vous pensez que le Canada pourrait éventuellement ratifier ce protocole?
Il faudrait que le Canada le ratifie. Et la meilleure preuve concrète, bien sûr, une signature, c'est une chose, mais ce sera d'avoir une véritable loi inclusive pan-canadienne qui a tout de même des limites. On pourra en parler un peu plus tantôt, là. Moi, j'entends là, depuis les élections fédérales, là, les gens disent « Ah, parfait, on va avoir une loi sur l'accessibilité, une loi des personnes handicapées, peu importe, et tout va se régler. » Oui, on aimerait bien ça, mais bon, les lois, oui, mais c'est ceux qui appliquent les lois, les mécanismes.
On va en parler ensuite, mais il faut resituer pour les gens qui nous écoutent. En 2007, le gouvernement conservateur avait aussi produit, ou en fait promis, une telle loi. Et donc, là, on a un peu plus l'impression qu'avec le gouvernement actuel, on va en accoucher d'une en 2018. Mais vous le dites, hein, ça dépend ce qu'on met dans cette loi-là, comment on la surveille, etc. Je vous demande de vous prononcer maintenant à titre de membre du Conseil des Canadiens avec déficience. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la position du CCD puis l'accueil qu'elle fait à propos de ce projet de loi sur l'accessibilité?
Bon, c'est une revendication historique du Conseil des Canadiens avec déficience à laquelle la COFAN appartient comme membre. Alors, c'est sûr que l'avènement de cette annonce a été très bien accueilli. Moi, j'ai rencontré la ministre le 3 décembre dernier et c'est clair que tout le monde lui a dit qu'on était très heureux de l'ouverture de la ministre et que c'est clairement identifié dans son mandat que le premier ministre, la lettre de mandat que M. Trudeau lui a donnée, c'est sa priorité. C'est sa priorité, Mme Caltou, de présenter un projet de loi sur les personnes handicapées. Bon, la personne parle de projet de loi sur l'accessibilité. Alors là, déjà
au
là...
Québec, on préfère peut-être... au Québec, on préfère peut-être parler d'accessibilité que de personnes handicapées?
Bien, ça dépend. Il y a les deux. Il y a une vague internationale aussi qui a les deux approches. Mais ce qui est important, c'est bien sûr le nom, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire une loi sur l'accessibilité? C'est très large, l'accessibilité.
Mais
c'est pas juste l'accessibilité physique, là.
En parlant de cette loi sur l'accessibilité, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il s'agit d'une loi fédérale.
Oui.
Donc, qu'est-ce que ça peut toucher, une loi fédérale pour l'accessibilité?
Vous savez, ce Canada, ce beau grand pays, a une constitution, et cette constitution-là prévoit des champs de juridiction provinciaux, fédéraux, partagés. D'autres oui, d'autres non. Et dans le quotidien...
Puis des fois, ça se négocie.
oui, mais dans le quotidien, si on parle de transport adapté, par exemple, à Montréal, si on parle d'accessibilité aux environnements, si on parle d'éducation, si on parle d'emploi, le fédéral a tout, somme toute, un rôle relativement mineur. Cependant, il y a le concept que fédéral, qui est le pouvoir général de dépenser, qui permet au fédéral de donner des petites orientations lorsqu'il met de l'argent. Mais il faut se situer dans la perspective Canada-Québec. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner de cours sur cette réalité Canada-Québec qui, ouais, à certains égards, n'est pas la même qu'Ontario-Canada, par exemple. Pour des raisons que j'expliquerai quand j'aurai le temps un jour, mais c'est pas la même
quand on parle de constitution, ça peut être long, en effet. Ouais, on va pas s'attarder à ça.
Simplement pour dire qu'il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes. Le gouvernement du Canada, c'est sûr que la loi canadienne va s'appliquer, par exemple, au champ exclusif canadien. Hein? Le transport aérien, le transport interprovincial, les communications. Hein? C'est des exemples que je vous donne. Est-ce que cette loi canadienne-là va être assortie d'une série de conférences fédérales provinciales pour que les provinces adoptent des lois complémentaires? C'est à souhaiter, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, dans notre quotidien, c'est d'abord et avant tout le gouvernement du Québec et les municipalités. Mmh. Un n'empêche pas l'autre, mais un n'implique pas l'autre non plus. Et c'est pour ça que nous, au Québec, tu le sais très bien, Benoît, on est aussi en train de travailler sur une réflexion sur la loi québécoise. Alors, tout ça arrive assez bien, dans le fond.
Ben, écoutez, vous me pavez la voie. Est-ce que vous pensez qu'une loi canadienne pourrait favoriser une loi québécoise ou l'arrivée d'une loi québécoise?
Ben, je pense que la loi québécoise qui existe doit être revue en profondeur pour toutes sortes de raisons. Et la loi canadienne doit aussi prévoir dans la loi elle-même, des mécanismes. Qui va surveiller l'application de cette loi? Parce qu'au Québec, on a une loi, mais on peut toujours avoir une opinion sur l'Office des personnes handicapées du Québec qui a un mandat, mais je pense qu'on est obligé de constater que le mandat, ça ne marche pas fort. Hein? Le pouvoir de surveillance n'est pas assorti avec un pouvoir de contraindre. Hein? Alors, c'est bien beau se flatter à bédaine, dire « lâche pas », mais quand ça n'arrive pas, alors j'espère qu'on ne tombera pas dans le même panneau au Canada parce qu'on ne réglera rien.
Écoutez, j'ai une proposition, ou plutôt on parle dans le milieu d'une possibilité. Est-ce que vous croyez que ce serait possible que la Commission canadienne des droits et libertés ait un rôle de surveillance dans l'application d'une telle loi?
Oui, parce que nous, la COFAN et le CCD, on a suggéré que la Commission canadienne soit l'organisme de surveillance pour la Convention internationale, qui n'est toujours pas ratifiée. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une Commission canadienne et des commissions provinciales. Alors, ça pourrait être une instance fédérale provinciale qui serait tout indiquée pour, bien sûr, faire de la surveillance. Mais il faut que la loi prévoie des mécanismes et, malheureusement, parce que c'est souvent comme ça que ça marche, des sanctions. Mm-hmm. Parce que c'est bien beau de surveiller, mais si tu surveilles et si tu achètes avec un gun à blanc, bonne chance, tu sais.
Oui. Ben d'ailleurs, dans les documents de consultation, je dois avouer qu'on parle assez tard de ces possibles pénalités, mais il y a peut-être aussi d'autres moyens de surveiller la loi. Mais avant, parce que le temps avance, on a beaucoup parlé de cette possible loi, mais il y a toute une réflexion qui se fait avant sa promulgation. Et donc, j'avais envie de vous parler de consultation. Est-ce que vous, en tant que COFAN, en tant que regroupement québécois, quel est votre rôle dans cette consultation-là?
Bon, d'abord, la COFAN fait partie du comité canadien, hein, des milieux associatifs de personnes qui ont des limitations. La COFAN est nommément membre du comité du CCD sur cette question-là. Ça, c'est déjà un bon point, parce qu'on n'est pas toujours membre des comités au CCD, à cause, bien sûr, d'un certain élément de culture. Mm-hmm. Deuxième chose, c'est que la COFAN, c'est pas encore attaché, mais la COFAN va être impliquée de façon assez directe dans une consultation là, québécoise des personnes handicapées. Là.
C'est pas attaché. Est-ce que c'est celle qui est prévue peut-être le 10 novembre prochain ou le 16 novembre prochain à Québec et Montréal?
Ça, c'est une chose qui va se préciser. Il y aura peut-être plus que ça, là.
Okay.
Il y aura peut-être plus que ça, mais on est encore en train d'attacher ça. Et je rencontre la ministre en septembre, le 20 septembre, pour voir avec elle. Et ça se peut même qu'on soit impliqué au niveau de la francophonie hors Québec aussi. Là.
Bien, oui.
Okay? Et c'est pour ça qu'il faut que les gens donnent leur avis. Nous, à la COFAN, aussi, on encourage les gens à s'inscrire au Forum des jeunes qui va avoir lieu en novembre aussi. Ça parle des jeunes québécoises et des jeunes québécois là-dedans. Là.
Bien, vous avez parfaitement raison. En fait, j'allais vous le souffler aussi à l'oreille. Il y a un Forum national jeunesse qui va se tenir le 1er novembre à Ottawa. Mais d'ici le 16 novembre, les gens... le 16 septembre... Quelle date, Richard, aidez-moi?
Je ne sais pas la date. Je t'avoue, je ne sais pas les dates de consultation sur Internet.
Je l'ai proche. En fait, on a jusqu'au 15 septembre pour s'inscrire quand on était jeune, quand on est jeune, donc 30 ans ou moins. Mais évidemment, tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur âge, sont invités à se prononcer.
Ouais.
Et il y aura peut-être d'autres activités à venir aussi, peut-être organisées par la COFAN, comme vous le disiez. Mais on peut le faire en ligne aussi, hein?
Oui, on peut le faire en ligne. Et nous, à la COFAN, c'est sûr qu'on va, nous, avec nos 62 membres partout au Québec, là, on va bien sûr inviter des gens là, à participer à des rencontres. Mais comme je vous dis, c'est pas tout à fait encore parce que c'est grand le Québec. Si on veut faire une tournée du Québec, par exemple, ben, ça prend des ressources et tout ça. Et faut matcher ça avec le reste du Canada aussi. Puis aussi, comme je vous dis, là, en lien avec l'application de la Convention, c'est des législations qui se complètent. Qui doivent s'embarquer les unes dans les autres, dans le respect, bien sûr, des juridictions constitutionnelles, ce qui n'est pas simple. ce qui n'est pas simple du tout.
Il y a de la politique même en accessibilité, hein?
Oh, ben c'est sûr, parce que l'accessibilité est un marché. Est ouais. un marché et qui va aller en progressant, compte tenu notamment du vieillissement de la population et de la volonté aussi des populations de s'intégrer, de s'inclure ou de participer. Mm-hmm. Alors, c'est un très beau défi qu'on a pour proposer des choses et apporter. Je crois que le Québec, avec notre culture associative, notre culture de fonctionnement, de concertation, moi, je vois partout dans les autres provinces, puis on est unique, hein, au Québec. On est unique dans notre façon de faire. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça peut aider vraiment avec les autres Canadiens, des autres provinces. Puis il y a des provinces qui sont tellement très peu développées, le milieu associatif aussi.
Ouais.
Alors nous, on est chanceux d'avoir un milieu fort, un milieu quand même relativement bien structuré. Ceci dit, ben, il va falloir qu'on soit capable de proposer quelque chose de crédible au gouvernement du Canada, parce qu'il y aura beaucoup d'opposition.
Vous attendez de l'opposition
face
à cette loi-là? Ah oui, il y aura
d'opposition, parce que si on parle d'obligation de rendre les transports accessibles, je ne sais pas ce que les compagnies vont dire. Hein?
Oui, bien sûr. Hein? Sans parler des immeubles aussi.
C'est plus d'argent que la coffine, hein?
Non, c'est sûr, voilà. mais malgré tout, est-ce que vous avez déjà vu apparaître des protestations? Est-ce qu'il y a déjà des groupes de la société civile, des représentants de compagnies qui sont allés voir la COFAN pour voir comment ça se passait?
Non, pas directement pour ça.
Okay.
Mais ça me laisse craindre que ça peut venir, parce que, bon, sans nécessairement donner trop d'informations, on était approchés par des compagnies qui voulaient vraiment faire la promotion de leurs propres affaires.
Ouais.
Et on a aussi l'expérience avec Via Rail qui a été condamnée par la Cour suprême du Canada en 2007 à peu près.
Rappelons qu'elle est de juridiction fédérale. En fait, ça serait, comment je pourrais dire, concernée par une loi, Via Rail.
Mais Via Rail, oui, elle serait concernée, mais même si elle était condamnée, elle n'a pas fait la job depuis.
Mm-hmm.
Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'une loi, c'est beau, mais ça prend des bons moyens de mise en œuvre. Et comment est-ce qu'on va être capable de convaincre le gouvernement du Canada de s'auto-obliger? On espère que oui. On a une bonne indication avec l'Office du transport du Canada qui consulte la COFAN ces temps-ci.
Okay.
Et là, on parle plus juste de bonnes pratiques. On veut proposer des règles applicables. On sent un changement de ton, là, quand même.
Bien, merci d'y participer, en tout cas. Merci de représenter les intérêts des organismes au Québec. Je vous rappelle, à vous qui nous écoutez, qu'il est encore temps de s'inscrire avant le 15 septembre pour avoir la chance de participer au Forum national jeunesse, donc si vous avez 30 ans ou moins, ou encore, il est possible, en allant visiter la page de Canal M, de participer à une consultation en ligne. Donc, merci, Richard Lavigne, de nous avoir éclairés. Merci.
Au revoir.
Accès libre est présenté sur Canal M le mardi à midi et en reprise à 17h. Benoît Racette s'entretenait avec Richard Lavigne, directeur de la COFAN. Au sujet de cette grande consultation qui s'effectue présentement sur tout le territoire canadien, sachez que la tournée d'information s'arrêtera à Regina le 28 septembre, à Winnipeg le 3 octobre, à Calgary le 13 octobre, à Moncton le 20 octobre, à Montréal le 16 novembre et à Toronto le 8 février 2017. Toujours au sujet de la consultation Canada Accessible, dans le cadre de l'émission Les Paractualités, je vous faisais part mercredi dernier d'un appel de candidature s'adressant aux jeunes. Le voici. Cet automne, la ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Caltro, sera l'hôte d'un forum national d'une journée. Une journée s'adressant aux jeunes qui sont handicapés et ceux qui ont une expérience vécue, professionnelle ou scolaire, dans un domaine lié à l'incapacité. Cet événement s'inscrit dans le processus de consultation du gouvernement du Canada visant à améliorer l'élaboration d'une loi prévue sur l'accessibilité. Et là, c'est votre occasion. C'est votre occasion de vous joindre à d'autres jeunes de partout au pays et de partager vos idées afin d'améliorer l'inaccessibilité et l'inclusion des personnes handicapées au Canada. C'est aussi pour vous l'occasion de mettre en valeur ce que vous avez accompli pour éliminer les obstacles pour les personnes handicapées. Et puis, c'est l'occasion d'inspirer d'autres jeunes à faire preuve de leadership afin de promouvoir la participation de tous les Canadiens à la société, y compris les personnes handicapées. Le forum aura lieu au mois de novembre 2016 à Ottawa, en Ontario. La date et le lieu du forum seront confirmés avec les candidats choisis. Les frais de voyage et d'hébergement des participants sélectionnés seront payés,
conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor du Canada. Alors, pour participer, vous devez avoir entre 15 et 30 ans, vous devez être résident du Canada, vous devez être une personne handicapée, bien sûr, ou avoir une expérience vécue professionnelle ou scolaire liée à l'incapacité et à l'accessibilité. Et puis, vous devez pouvoir démontrer comment vous avez fait preuve de leadership ou d'engagement dans un domaine lié à l'incapacité et à l'accessibilité dans votre collectivité, votre région ou encore à l'échelle nationale. Alors, pour plus d'informations, allez donc sur le site Forum National texte. Et puis là, vous allez trouver, parce que si vous saviez, c'est un titre vraiment très, très long et de toute façon, vous allez me perdre. Alors, si vous allez sur le site du Forum National, il vous sera beaucoup plus facile d'avoir toutes les informations et bien évidemment de vous inscrire. Voilà ce qui met un terme à l'émission Le National qui vous sera présentée tous les vendredis à midi. Je m'appelle Clotilde Seille. Je voudrais remercier toute l'équipe de Canal M pour sa participation active à la réalisation de cette émission.